13h au village Liton dans l'Ombela Poko, le journal de la mi-journée avec Martial Steve Mbetisinga. Martial, bonjour.
Bonjour Nina Verdiania Bobby, bonjour à tous. Des dégâts sont aussi enregistrés au PK22 sur la route de Damara. C'est après la pluie de vendredi dans la localité. Deux personnes sont décédées, plusieurs autres blessées et près de 200 maisons se sont écroulées. Et puis un manque à gagner pour l'État centrafricain. La ville de Alindao dans la Basse-Côte ne dispose d'aucun agent de régie financière. Les opérateurs économiques, eux, se montrent disponibles pour payer les taxes et impôts. Au sommaire également, le monde célèbre aujourd'hui la journée de la radio. Elle est commémorée sous le thème Radio et Paix. C'est pour mettre en exergue la contribution de la radio dans le processus du retour de la paix et du vivre ensemble. Basketball fait hier des matchs des quarts de finale de la coupe de pré-saison de la Ligue de Bangui. Chez les garçons, Nutek Bantu Club a battu Bangui Sporting Club champion titre par forfait.
Martial, nous ouvrons ce journal au village Liton à 22 km de Bangui sur la route de Damara où on compte des centaines de victimes de pluie.
Oui, c'est la pluie torrentielle qui s'est abattue vendredi sur cette localité. Deux personnes sont décédées, plusieurs autres blessées et près de 200 maisons se sont écroulées. Et Dalotine Diko s'est rendue sur place. Reportage.
Des toitures de maisons d'habitation, des écoles et centres de santé des Liton emportés par le vent. La situation est identique dans les quartiers Liton 1, Liton 2, Ngoukomba, Pan, Ngoukomba Central, Koula 1 et 2, où près de 200 maisons se sont écroulées. Ici au quartier Koula 1, Jocelyne et son beau-frère tentent de récupérer les tôles de leur toiture enlevées par le vent violent. Pendant ce temps, ustensiles de cuisine, habits et autres sont dehors.
Pour le moment, c'est l'ensemble du toit qui est endommagé. Tous les matériaux sont détruits. Nous sommes là exposés dehors. Nous ne savons où aller. On continue d'habiter dans les décombres. L'école aussi est affectée par le vent. Nous sommes là, nous ignorons ce qui peut arriver demain.
Au Liton Centre, Ambroisine, âgée d'une soixantaine d'années, a eu une fracture au pied gauche suite à l'écroulement du mur de sa maison.
Le vent est fortement arrivé quand j'étais devant la porte. Les briques se sont écroulées sur moi au niveau de la jambe. Je me suis battue pour m'en sortir de là. Aussitôt, j'ai vu mes pieds enflés et je les ai serrés avec mon mouchoir de tête. C'est ainsi que ma voisine a appelé les braves du quartier pour me porter secours en m'amenant à l'hôpital.
Selon Fidel Dawili, chef de groupe de Liton, deux adolescents sont tués dans cette catastrophe. On compte une dizaine de blessés et plusieurs ménages sont pour le moment sans abri.
Les gens sont restés sans demeure depuis hier, même jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc, dégâts matériels, il y a dégâts humains. Là, les maisons sont rasées. Donc, ces personnes-là sont sans demeure en ce moment. Mon message, c'est de lancer un SOS aux ONG humanitaires, de nous voler au secours, surtout pour avoir quelques tentes pour les victimes.
Des pluies accompagnées de vents violents sont récurrents à la fin de la saison sèche. Le village Wokoli, à 7 km du village Bombélé, n'est pas épargné. Plus d'une vingtaine de maisons s'y sont écroulées.
Merci à vous, Edalotin Diko. Parlons des dégâts de pluie au PK22. On nous signale un incendie à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. C'est un dépôt de stockage de carburant qui a pris feu. Une partie du bâtiment qui abrite la direction du patrimoine a été également touchée. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Hippolyte Tungbe, chargé de communication de la CNSS, interprète les origines du drame au micro de Claire Asamba Dinga.
Aux environs de 10h40, j'étais dans mon bureau, puis j'ai été alerté par des cris, comme quoi il y a feu. C'est comme ça que je suis sorti de mon bureau et puis je me suis rapproché de l'endroit où le feu a commencé. C'est un hangar qu'on a construit sous lequel on a le groupe électrogène. Et puis un peu plus loin, à côté du groupe électrogène, il y a des fûts de stock de carburant. Et puis le feu est parti de là. Vous savez, nous sommes en saison sèche, il fait très chaud. Et avec le moteur du groupe électrogène, ça produit de la chaleur. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé, les fûts ont commencé à exploser. C'est de là qu'est parti donc, cet incendie. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers de la République centrafricaine, accompagnés de ceux de la MINUSCA, ils ont pu maîtriser le feu. Heureusement, le feu ne s'est pas propagé sur les autres bâtiments. Heureusement, pendant l'incendie, le personnel sur place a pu sauver les documents qui étaient dans tous les bureaux de ce bâtiment. Donc, aucun document n'a été touché à ma connaissance. La situation est en ce moment sous contrôle, c'est déjà maîtrisé. Il n'y a pas de perte en vue. Humain. semaine.
Le journal se poursuit. Martial, direction à présent la ville d'Alindao dans la Basse-Côte, où une poche de recettes publiques échappe au gouvernement.
Aucun agent des régies financières n'est présent dans la ville, même si les opérateurs économiques se montrent disponibles pour payer les taxes et impôts. Un manque à gagner pour cette sous-préfecture en proie à l'insécurité. Igor Djeskansinapai.
En cette période de tension de trésorerie, l'État devrait mobiliser des recettes publiques sur l'ensemble du territoire pour faire face à ses obligations. Mais, malgré une paix relative à Alindao, aucun service des impôts et des douanes n'est opérationnel dans la localité. Guy Mathurin Bonzo-Monsese, maire d'Alindao, déplore la situation.
Il nous manque l'inspecteur des impôts qui est toujours à Bangui, les receveurs des impôts qui n'est pas venu à Alindao. Les douanes se trouvent au niveau de la préfecture. Là, c'est un manque à gagner pour l'État centrafricain, puisque les gens ne sont pas là. Mais peut-être c'est dû à l'insécurité qui règne autre temps dans la ville d'Alindao. Pour moi, je lance un vibrant appel au gouvernement de nous augmenter d'abord le nombre des FSI, par exemple les gendarmes, les policiers, les FACA qui ne sont pas nombreux ici à Alindao pour assurer la sécurité de la population d'Alindao.
Une situation favorable aux opérateurs économiques de la ville, même si certains expriment leur volonté de contribuer au développement de la région à travers le paiement des taxes. In Djibrin, commerçant à Alindao, regrette l'absence de ces régies financières dans la localité.
Ici à Alindao, nous avons des difficultés parce qu'on veut aussi payer les impôts, mais malheureusement ici à Alindao, il n'y a pas de division des impôts, donc voilà vos sources de nos problèmes ici.
La dégradation de la route, l'insécurité et l'augmentation du prix du carburant impactent négativement les activités économiques de la ville. Soumaïne Ali, opérateur économique au marché d'Alindao.
La route est dégradée. Quand tu quittes Bambari pour Bokolobo, ça va un peu. Mais de Bokolobo à Alindao, la situation reste critique. L'augmentation des prix à Bangui a joué sur nos produits ici et la population s'en plaint. Hier, une tonne coûtait entre 80 000 francs à 90 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, on paye à 150 000 francs CFA par tonne.
Selon nos informations, certains éléments des FACA basés à Alindao se voient obligés de jouer le rôle des douaniers, policiers et gendarmes. Mais la destination des recettes prélevées reste inconnue. La crise sécuritaire qu'a connue Alindao a durement fragilisé les secteurs de l'élevage et de l'agriculture, poumon de l'économie locale. Igor Djeskansinapai est de retour d'Alindao, Radio Ndekeluka.
Le monde célèbre aujourd'hui la journée de la radio.
Proclamée en 2011 par l'UNESCO et adoptée par les Nations Unies en 2012, cette année, la journée est commémorée sous le thème « Radio et paix ». En RCA, pays où, avec une forte culture de l'oralité, la radio reste un outil privilégié pour la communication. Que représente la radio pour les Centrafricains? Astrid de Bonheur-Kolingui.
La radio, outil important pour matérialiser la notion de village planétaire, reste et demeure sur le plan mondial le média le plus accessible, le plus consommé et à faible coût. Quelques auditeurs sont africains parlent de bienfaits de la radio.
La radio favorise la communication entre tout le monde dans un pays ou dans le monde entier.
Mais la radio fait du bien dans notre vie.
J'écoute la radio pour écouter l'émission, pour avoir les informations sur le pays.
La radio est mon premier outil d'information. Elle me permet de savoir ce qui se passe partout dans mon pays, même si je ne suis pas sur le lieu d'événement. Et cela m'aide.
C'est par rapport à la radio. On peut avoir les nouvelles des parents qui sont peut-être ailleurs.
Malheureusement, la radio est politisée maintenant.
Élie, un passionné de la radio, en garde un bon souvenir.
La radio m'a aidé. Si jamais je travaille aujourd'hui, c'est par rapport à la radio. Un jour, quand j'étais sorti de l'école et que j'étais à côté d'un poste récepteur comme ça, aux environs de 18h, j'ai écouté un avis d'appel d'offre d'emploi. Et c'est à travers cet avis-là que maintenant je suis fonctionnaire.
Après 40 ans de service comme journaliste à Radio Centrafrique, Raphaël Kopeswa, admis à la retraite, se rappelle toujours de la mission assignée à la radio.
La mission de la radio est celle d'informer, d'éduquer et de distraire. Voilà ce que nous avons pu faire, moi, pendant mes 40 ans d'exercice de la profession de journaliste.
La radio fait face cependant au phénomène de la désinformation. Raphaël Kopeswa appelle les jeunes journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie.
Il y a des radios qui font de la surenchère dans les informations sociales. Donc ils désinforment ou alors ils prennent le côté qui est le leur, soit leur idéologie. Avant que vous ne prononciez un mot, vous devez mesurer que ce mot-là est susceptible de désorganiser votre société
En République centrafricaine, la radio a joué et continue d'ailleurs de jouer un rôle indispensable dans le processus du retour de la paix et du vivre ensemble. Cependant, ce secteur reste très peu soutenu, faute d'appui nécessaire de l'État.
La radio est aussi un moyen de communication et d'information très apprécié par des habitants d'Obo dans le Haut-Mbomo.
Certains estiment que c'est un moyen d'information, d'autres évoquent son rôle de sensibilisation. Notre correspondant à Obo, Moïse Bako, a rencontré quelques auditeurs.
À Obo, la majorité de la population écoute en permanence des différentes radios. Dans les ruelles, marchés ou champs, à la maison même, au bureau, des gens écoutent la radio sur leur téléphone ou à travers leur poste récepteur. Pour éviter des désinformations, Stanislas Siamoda s'informe grâce à la radio.
Quand vous me voyez le matin à midi, si je suis à la maison, je suis là, scotché à côté de mon poste radio, c'est pour suivre les informations et être à jour à chaque fois que les informations passent.
Simon Siro, un cultivateur, écoute souvent les émissions agro-pastorales pour améliorer ses activités.
J'ai écouté la radio. Certains de mes collaborateurs cultivateurs annoncent déjà qu'ils ont commencé à abattre leurs arbres de leurs champs. On entend parler de la terre, on entend parler aussi à travers la radio nos bétails, comment les protéger. C'est un appareil vraiment qui me fait instruire beaucoup.
Pour Raissa Siribi, une mère de 4 enfants, certaines émissions qu'elle a suivies encouragent les femmes à travailler comme les hommes.
J'écoute la radio parce qu'elle joue un rôle essentiel. À travers des émissions, on nous encourage, nous les femmes, à travailler comme les hommes. À Obo, il y a certaines choses qui m'échappent, par exemple, comment mener une activité génératrice de revenus. Mais grâce aux émissions, je peux connaître ces techniques pour me permettre de m'occuper de ma famille.
Si à Obo, plusieurs auditeurs saluent l'importance des radios dans leur vie quotidienne, néanmoins, ils déplorent des coupures intempestives de ces instruments qui distraient aussi à travers des musiques. Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndikiluka.
La page sport de cette édition, basketball, Rodrigue Stéphane Kabido, Béréké, ailier du club Abeille, quitte Bangui cet après-midi pour Abidjan, Côte d'Ivoire.
Oui, il y va pour intégrer l'équipe Oufet Boigny Université Club. La prestation de ce jeune homme de 29 ans a permis à sa formation de se qualifier pour les demi-finales du tournoi de pré-saison en battant Red Star Ndongo Club 75-55. Claire Assamba Dinga a assisté à son dernier match samedi dernier. Reportage.
16h40 au Palais des Sports, Abeille affronte Red Star Ndongo Club. Un dernier match du championnat pour le maillon fort du club Abeille, Rodrigue Stéphane Kabilo Béréké. Au premier carton, son club mène Red Star 27-13. Sa prestation permet à Abeille de creuser les scores 51-31 au deuxième carton. Reconnu pour son leadership sur le parquet, Kabilo encourage ses coéquipiers à hisser le score au troisième carton 67-40. Abeille ne lâche rien et conserve sa supériorité et file en demi-finale grâce à cette victoire décisive 75-55 face à Red Star. Rodrigue Kabilo, meilleur joueur passeur de son équipe.
J'ai envie de faire marquer mes coéquipiers, jouer en équipe, amener les petits qui arrivent à progresser avec le peu d'expérience qu'on a.
Pontelic Kokonenji, capitaine d'Abeille, apprécie les qualités de Kabilo et lui dédie cette qualification.
Kabilo, c'est un bon joueur. Il va certainement beaucoup nous manquer. On lui dédie cette victoire. On est content pour lui.
Le départ de ce joueur talentueux est un choc pour Abeille, mais son entraîneur Wilfried Gongon ne perd pas espoir car il souhaite le revoir bientôt en équipe nationale.
Je lui souhaite un bon vent. Je vais essayer de combler ce trou-là pour préparer un joueur à sa place. On aura toujours besoin de lui pour l'équipe nationale pour aller jouer les éliminatoires de l'an prochain.
La prestation de Kabilo sur le parquet est aussi appréciée par Jordan Madjana, supporter d'Abeille.
Kabilo est un bon joueur. Je demande à Dieu de le protéger et de lui donner la force. Il va jouer pour gagner sa vie. Je rêve toujours de le voir en sélection nationale. Je suis très content pour lui.
Après Abeille, une nouvelle aventure s'ouvre pour ce jeune fauve, Rodrigue Stéphane Kabilo.
Ça fait beaucoup plaisir d'intégrer ce club. Ça montre que notre championnat est relevé. Je ne serais pas perdu vu que l'équipe nationale ivoirienne a un directeur technique centrafricain. Qu'elle a vraiment, c'est en plus.
L'homme n'est pas à sa première aventure internationale. En 2013, Kabilo avait joué pour l'équipe Béac du Cameroun. Ce ailier du club Abeille quitte Bangui cet après-midi pour l'équipe Oufouet Boigny Université Club HBUC de la Côte d'Ivoire.
Merci à vous, Claire Assamba Dinga. Aux dernières nouvelles, Dan Baigo, meneur de Bangui Sporting Club, lui aussi, s'envole cet après-midi pour intégrer Oufet Boigny Université Club.
Basketball encore, c'est la fin hier des matchs des quarts de finale de la Coupe de pré-saison de la Ligue de Bangui chez les garçons au Palais des Sports.
New Tech Bantu Club a battu Bangui Sporting Club, champion en titre par forfait. Quatre équipes sont qualifiées pour les demi-finales. Il s'agit de Tandima, Zarasklo, Abbé et New Tech Bantu Club. Et c'est la fin de cette édition en version française. Merci pour votre fidélité d'écoute. Ne quittez pas tout de suite la version Sango de votre journal.